Jules Verne, Maître du Monde. Chapitre 4. Un concours de l'Automobile Club. Le mystère du Great Eyrie devait-il être dévoilé un jour par suite d'éventualités difficiles à prévoir? C'était le secret de l'avenir. Y avait-il un intérêt de premier ordre à ce qu'il le fût? Aucun doute à ce sujet, puisque la sécurité des habitants de ce district de la Caroline du Nord en dépendait peut-être. Quoi qu'il en soit, une quinzaine de jours après, alors que j'étais de retour à Washington, l'attention publique fut non moins sollicitée par un fait d'ordre tout différent. Ce fait allait demeurer aussi mystérieux que les phénomènes dont le Great Eyrie venait d'être le théâtre. Vers le milieu de ce mois de mai, les journaux de la Pennsylvanie portèrent à la connaissance de leurs lecteurs le dit fait qui s'était récemment produit en divers points de l'État. Depuis quelque temps, sur les routes qui rayonnent autour de Philadelphie, son chef-lieu, circulait un extraordinaire véhicule, dont on ne pouvait reconnaître ni la forme, ni la nature, ni même les dimensions, tant il se déplaçait rapidement. Que ce fût une automobile, il y avait parfait accord à ce sujet. Mais quel moteur l'animait? On en était réduit aux hypothèses plus ou moins admissibles, et lorsque l'imagination populaire s'en mêle, il est impossible de lui assigner de justes limites. À cette époque, les automobiles les plus perfectionnées, quel que fût leur système, mues par la vapeur d'eau, le pétrole, l'alcool ou l'électricité, ne dépassaient guère le 130 à l'heure, soit environ 30 lieues de 4 km, c'est-à-dire environ 1,5 mille par minute. Ce que les chemins de fer, avec leur express ou leur rapide, donnent à peine sur les meilleures lignes de l'Amérique et de l'Europe. Or, en ce qui concerne l'engin dont il s'agit, il marchait certainement au double de cette vitesse. Inutile d'ajouter qu'une telle allure constituait un extrême danger sur les routes, tant pour les véhicules que pour les piétons. Cette masse roulante, arrivant comme la foudre, précédée d'un grondement formidable, déplaçait l'air avec une violence qui faisait craquer les branchages des arbres en bordure, affolant d'épouvante les animaux en pâture dans les champs, dispersant les oiseaux qui n'auraient pu résister au tourbillon de la poussière soulevée à son passage. Et, détail bizarre, sur lequel les journaux attirèrent plus particulièrement l'attention, le macadam des chemins était à peine entamé par les roues de l'appareil, qui ne laissait après lui aucune trace de ses ornières, produite par le roulement de lourds véhicules. À peine une légère empreinte, un simple effleurement. La rapidité seule engendrait le soulèvement de la poussière. C'est à croire, faisait observer le New York Herald, que la vitesse de déplacement mange la pesanteur. Naturellement, des réclamations s'étaient élevées parmi les divers districts de la Pennsylvanie. Comment tolérer ces courses folles d'un appareil qui menaçait de tout renverser, de tout écraser sur son passage, voiture et piéton? Mais de quelle façon s'y prendre pour l'arrêter? On ne savait ni à qui il appartenait, ni d'où il venait, ni où il allait. On ne l'apercevait qu'au moment où il filait comme un projectile dans sa marche vertigineuse. Allait donc saisir au vol un boulet de canon au moment où il sort de la bouche à feu? Je le répète, nulle indication sur la nature du moteur de l'engin. Ce qui était certain, ce qu'on avait constaté, c'est qu'il ne laissait derrière lui aucune fumée, aucune vapeur, aucune odeur de pétrole ou autre huile minérale. De là cette conclusion, c'est qu'il s'agissait d'un appareil mû par l'électricité, et dont les accumulateurs d'un modèle inconnu renfermaient un fluide pour ainsi dire inépuisable. Alors l'imagination publique, très surexcitée, voulut voir tout autre chose dans cette mystérieuse automobile. C'était le char extra-naturel d'un spectre qui la conduisait, un des chauffeurs de l'enfer, un gobelin qui venait de l'autre monde, un monstre échappé de quelque ménagerie tératologique, et, pour le résumer en un seul type, le diable en personne, Belzébuth, Astaroth, qui défiait toute intervention humaine, ayant à sa disposition l'invisible et infinie puissance satanique. Mais Satan lui-même n'avait pas le droit de circuler avec cette rapidité sur les routes des États-Unis, sans une autorisation spéciale, sans un numéro d'ordre, sans une licence en règle, et à coup sûr, pas une municipalité n'eût consenti à lui permettre du 250 à l'heure. Donc, par raison de sécurité publique, il fallait aviser au moyen d'enrayer la fantaisie de ce chauffeur masqué. Et même, ce ne fut pas la seule Pennsylvanie qui servit de vélodrome à ses excentricités sportives. Les rapports de police ne tardèrent pas à signaler l'appareil en d'autres États. Au Kentucky, aux environs de Francfort, dans l'Ohio, aux environs de Columbus, dans le Tennessee, aux environs de Nashville, dans le Missouri, aux environs de Jefferson, et enfin dans l'Illinois, sur les différentes routes qui aboutissent à Chicago. Maintenant, l'éveil étant donné, il appartenait aux autorités municipales de prendre toute mesure contre ce danger public. Attraper un appareil lancé à de telles vitesses, on y pouvait compter. Le plus sûr serait d'établir sur les chemins des barrages solides contre lesquels il viendrait tôt ou tard se briser en mille pièces. « Bon, » répétaient les incrédules, « cet enragé saura bien tourner les obstacles. » « Et au besoin sauter par-dessus les barrages, » ajoutait-on. « Et si c'est le diable, il a des ailes en sa qualité d'ancien ange, et il ne sera pas embarrassé de prendre son vol. » Vrai propos de Comer, dont il n'y avait pas lieu de tenir compte. D'ailleurs, si ce roi des enfers possédait une paire d'ailes, pourquoi s'obstinait-il à circuler sur le sol terrestre, au risque d'écraser les passants, plutôt que de s'élancer à travers l'espace comme un libre oiseau des airs? Telle était la situation qui ne pouvait se prolonger, dont se préoccupait à bon droit la haute police de Washington, résolue à y mettre un terme. Or, voici ce qui arriva dans la dernière semaine du mois de mai, et tout donnait à penser que les États-Unis étaient délivrés du monstre, resté insaisissable jusqu'alors. Et même, après le Nouveau Monde, il y avait lieu de croire que l'ancien ne serait pas exposé à recevoir la visite de cet automobiliste aussi dangereux qu'extravagant. À cette date, le fait suivant fut rapporté dans les divers journaux de l'Union, et de quels commentaires le public l'accompagna, il est facile de l'imaginer. Un concours venait d'être organisé par l'Automobile Club dans le Wisconsin, sur une des routes de cet État, dont Madison est le chef-lieu. Cette route forme une piste excellente, sur une longueur de 200 milles, allant de Prairie du Chien, ville de la frontière ouest, en passant par Madison, et se terminant un peu au-dessus de Milwaukee, à la rive du Michigan. Seule au Japon, la route entre Nikko et Namode, bordée de cyprès gigantesques, lui serait supérieure, car elle forme une ligne droite de 82 km. Nombre d'appareils et des meilleures marques s'inscrivirent pour prendre part à ce match. Il avait été décidé que tous les systèmes de moteurs seraient admis à concourir. Les motocycles même pouvaient disputer le prix aux automobiles. On verrait ceux des maisons Urter et Dietrich en ligne avec les voiturettes légères Gobron et Brillet. Renault Frères, Richard Brasier, Decauville, Darac, Adair, Bayard, Clément, Chenard et Walker. Les voitures Gillet Forest, Harward et Watson. Les plus grosses voitures Morse, Mercedes, Charon Girardeau Voigt, Hotchkiss, Panhard Levasseur, Dion Bouton, Gardner Serpollet, Turca Méry, Hirschler et Lobano, etc. De toute nationalité. La somme des prix était considérable, car elle ne s'élevait pas à moins de 50 000 dollars. Donc, nul doute que ces prix seraient vivement disputés. On le voit, les meilleurs fabricants avaient répondu à l'appel de l'Automobile Club en envoyant leurs types les plus perfectionnés. On en comptait une quarantaine de divers systèmes, vapeur d'eau, pétrole, alcool, électricité, tous ayant fait leurs preuves dans nombre de mémorables sports. D'après les calculs, basés sur le maximum de vitesse qui pourrait être obtenu, 130 à 140 km, cette course internationale durerait à peine 3 heures pour ce parcours de 200 milles. Aussi, afin d'éviter tout danger, les autorités du Wisconsin avaient interdit la circulation entre Prairie du Chien et Milwaukee pendant la matinée du 30 mai. Donc, aucun accident n'était à prévoir, si ce n'est ceux qui pourraient survenir aux concurrents en pleine lutte. Cela, c'est leur affaire, comme on dit volontiers. mais rien à craindre ni pour les véhicules ni pour les piétons, en raison des mesures sagement prises. Il y eut extraordinaire affluence, et non seulement des Wisconsinois. Plusieurs milliers de curieux accoururent des États limitrophes, de l'Illinois, du Michigan, de l'Iowa, de l'Indiana, même de l'État de New York. Il va sans dire que parmi ces amateurs d'exercices sportifs figuraient un certain nombre d'étrangers, anglais, français, allemands, autrichiens, et par un sentiment bien national, chacun faisait des vœux pour les chauffeurs de sa propre nationalité. À noter aussi, puisque ce match s'effectuait aux États-Unis, la mirifique patrie des grands parieurs de ce bas monde, que de multiples paris s'étaient établis sous toutes les formes et d'excessive importance. Des agences spéciales les avaient reçus. Dans le nouveau continent, il s'était considérablement accru depuis la dernière semaine de ce mois de mai et se chiffrait alors par centaines de mille dollars. Le signal du départ allait être donné à 8 heures du matin par un chronométreur. Afin d'éviter l'encombrement et les accidents qui en fussent résultés, les automobiles devaient se succéder à 2 minutes d'intervalle sur cette route dont les abords étaient noirs de spectateurs. Le premier prix serait attribué à la voiture qui couvrirait dans le minimum de temps la distance entre Prairie du Chien et Milwaukee. Les 10 premières voitures désignées par le sort étaient parties entre 8h et 8h20. Assurément, à moins d'un accident, elles seraient arrivées au but avant 11h. Les autres allaient suivre dans l'ordre de tirage. Des agents de police surveillaient la route de demi-mille en demi-mille. Les curieux, disséminés le long du parcours, s'ils étaient nombreux au départ, ne l'étaient pas moins à Madison, point milieu de la piste, et formaient une foule considérable à Milwaukee, point terminus du match. 1h30 s'était écoulée. Il ne restait plus un seul véhicule à Prairie du Chien. Par les communications téléphoniques, on savait de 5 minutes en 5 minutes quelle était la situation du ring et en quel ordre se succédaient les concurrents. C'était une voiture Renault Frère, 4 cylindres et 20 chevaux de force, pneu Michelin, qui tenait la tête à mi-chemin de Madison et de Milwaukee, suivie de près par une Harward Watson et une Dion Bouton. Quelques accidents s'étaient déjà produits, des moteurs fonctionnant mal, des appareils restés en panne, et vraisemblablement il ne serait pas plus d'une douzaine de chauffeurs en mesure d'atteindre le but. Mais si l'on comptait plusieurs blessés, il l'était plus grièvement. D'ailleurs, y eut-il mort d'homme ? C'est un détail, qui n'a pas grande importance dans cet étonnant pays d'Amérique. On le comprendra, où la curiosité et les passions devaient se déchaîner dans toute leur violence, c'était plus particulièrement aux approches de Milwaukee. Sur la rive ouest du Michigan se dressait le poteau d'arrivée, pavoisé de toutes les couleurs internationales. Bref, après 10 heures, il fut manifeste que le Grand Prix, 20 000 $, ne serait plus disputé que par 5 automobiles, 2 américaines, 2 françaises, 1 anglaise, grâce à leur avance considérable, les autres rivales étant distancées par suite d'accidents. Dès lors, on imaginera aisément avec quelle furie s'engageaient les derniers paris, qui mettaient en jeu l'amour-propre national. À peine si les agences pouvaient suffire aux demandes. Les cotes progressaient avec une rapidité fiévreuse. Les représentants des principales marques qui tenaient la tête étaient prêts à en venir aux mains. Et si le revolver ou le Bowie knife ne s'en mêlaient pas, il ne s'en faudrait guère. À 1 contre 3, la Harward Watson. À 1 contre 2, le Dion Bouton. À égalité, la Renault Frère. Ces cris, on peut le dire, retentissa sur toute la ligne à mesure que se répandaient les nouvelles téléphoniques. Or, voici que vers 9h30 à l'horloge municipale de Prairie du Chien, 2000 avant cette bourgade, se produisit un effroyable bruit de roulement, qui sortait d'un épais nuage de poussière, accompagné de sifflements semblables à ceux d'une sirène de marine. À peine si les curieux eurent le temps de se ranger, pour éviter un écrasement qui eût fait des centaines de victimes. Le nuage passa comme une trombe. Et c'est tout au plus s'il fut possible de distinguer l'appareil animé d'une pareille vitesse. on pouvait affirmer sans être taxé d'exagération qu'il faisait du 240 à l'heure. Il disparut en un instant, laissant derrière lui une longue traînée de poussière blanche, comme la locomotive d'un rapide laisse à sa suite une longue traînée de vapeur. Évidemment, c'était une automobile, pourvue d'un extraordinaire moteur. À maintenir cette allure pendant une heure, elle aurait rejoint les automobiles de tête, elle les dépasserait, avec cette vitesse double de la leur, elle arriverait première au but. Et alors, de toutes parts, s'élevèrent de bruyantes clameurs, bien que les spectateurs massés sur les bords de la route n'eussent rien à craindre. C'est l'infernale machine signalée il y a une quinzaine de jours. Oui, la même qui a traversé l'Illinois, l'Ohio, le Michigan, et que la police n'a pu arrêter. Et dont on n'entendait plus parler, heureusement pour la sécurité publique, et que l'on croyait finie, détruite, disparue pour jamais. Oui, la charrette du diable, chauffée avec les feux de l'enfer et que Satan conduit en personne. En vérité, si ce n'était pas le diable, qui pouvait donc être ce mystérieux chauffeur, menant avec cette invraisemblable vélocité cette non moins mystérieuse machine? Ce qui paraissait au moins hors de doute, c'est que l'engin qui courait alors dans la direction de Madison était bien celui qui s'était déjà signalé à l'attention publique et dont les agents n'avaient plus trouvé trace. Si la police croyait qu'elle n'en entendrait plus jamais parler, eh bien la police se trompait, ce qui se voit en Amérique comme ailleurs. Alors, passé le premier mouvement de stupeur, les plus avisés coururent au téléphone, afin de prévenir les diverses stations en prévision des dangers qui menaçaient le ring des automobiles, éparpillés sur la route, lorsque l'être quelconque qui dirigeait ce foudroyant appareil arriverait comme une avalanche. Elle serait écrasée, broyée, anéantie, et qui sait même si de cette épouvantable collision il ne sortirait pas, lui, sain et sauf. Après tout, il devait être si adroit, ce chauffeur des chauffeurs. Il devait manier sa machine avec une telle sûreté de coup d'œil et de main qu'il saurait sans doute ne se heurter à aucun obstacle. N'importe. Si les autorités du Wisconsin avaient pris des mesures pour que la route fût réservée aux seuls concurrents du match international, cette route ne l'était plus. Et voici ce que rapportèrent les coureurs, prévenus téléphoniquement, et qui durent interrompre la lutte pour le Grand Prix de l'Automobile Club. À leur estime, ce prodigieux véhicule ne faisait pas moins de 130 000 à l'heure. Telle était la vitesse, au moment où il les dépassait, qu'on put à peine reconnaître la forme de cette machine, sorte de fuseau allongé dont la longueur ne devait pas excéder une dizaine de mètres. Ses roues tournaient avec une vélocité telle que leurs rayons se confondaient. Du reste, elle ne laissait après elle ni vapeur, ni fumée, ni odeur. Quant au conducteur, renfermé à l'intérieur de son automobile, il avait été impossible de l'apercevoir. Et il demeurait aussi inconnu qu'à l'époque où il fut pour la première fois signalé sur les routes de l'Union. Par les stations téléphoniques, Milwaukee avait été prévenu de l'arrivée de cet outsider. On imaginera aisément l'émotion que causa la nouvelle. Et tout d'abord se posa la question d'arrêter ce projectile, d'élever en travers de la route un obstacle contre lequel il se briserait en mille pièces. Mais en aurait-on le temps? Le chauffeur ne pouvait-il apparaître d'un instant à l'autre? À quoi bon d'ailleurs? Ne serait-il pas finalement forcé d'enrayer sa marche, Valens aut nolem, puisque la route aboutissait au lac Michigan et qu'il ne pouvait aller au-delà, à moins de se métamorphoser en appareil de navigation? Telle est la pensée qui se présenta à l'esprit des spectateurs, groupés en avant de Milwaukee, après avoir pris la précaution de se tenir à distance suffisante pour ne point être renversé par cette trombe. Puis, là aussi, comme à Prairie du Chien, comme à Madison, les plus extravagantes hypothèses d'avoir cours. Et, à ceux qui ne voulurent point admettre que le mystérieux chauffeur fût le diable en personne, ils ne répugnaient pas de voir en lui quelques monstres échappés des fantastiques repères de l'Apocalypse. Et maintenant, ce n'était plus de minute en minute, c'était de seconde en seconde que ces curieux attendaient l'apparition de l'automobile signalée. Or, il n'était pas 11 heures lorsqu'un lointain roulement se fit entendre sur la route, dont la poussière se soulevait en volutes tourbillonnantes. Des sifflets stridents déchiraient l'air, invitant à se ranger sur le passage du monstre. Il ne ralentissait pas sa vitesse. Pourtant, le lac Michigan n'était plus qu'à 1/2 mile, et son élan suffisait à l'y précipiter. Est-ce donc que le mécanicien n'était plus le maître de sa mécanique? Il n'y eut bientôt aucun doute à ce sujet. Avec la rapidité d'un éclair, le véhicule arriva à la hauteur de Milwaukee. Et quand il eut dépassé la ville, alla-t-il donc s'engouffrer dans les eaux du lac Michigan? En tout cas, lorsqu'il eut disparu au tournant de la route, on ne trouva plus trace de son passage.